Bienvenue dans l'entreprise de nouvelle génération, le podcast du futur du travail en entreprise qui vous est proposé par Au-delà Spirit. Avec vous, nous allons découvrir ceux qui pratiquent déjà, dans leurs entreprises pionnières, ce futur du travail, ceux qui expérimentent de nouvelles gouvernances et explorent l'innovation managériale. Ils vont nous raconter leurs démarches, leurs succès, mais aussi leurs échecs et les questions qu'ils se posent. La règle est très claire, pas de langue de bois, une totale indépendance de ton. Alors avant de démarrer, un petit rappel, le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars prochains, en 2020, au centre de conférence Pierre Mendès France du ministère de l'économie et des finances, avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC, Au-delà Spirit, Manpower, Octo Technologies et la MAIF. Des trophées auxquels vous pouvez postuler vous aussi si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. L'inscription se fait sur thenextgenenterprise.com. Alors nous sommes avec Michel Allais, le CEO de Partena Professional. Michel Allais, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir et je propose pour démarrer que vous nous expliquiez ce que sont Partena et Partena Professional.
Partena Professional, c'est un groupe de services de ressources humaines. Nous disposons de compétences individuelles aussi bien en matière juridique, fiscale et sociale. Et nous exerçons plusieurs activités, si vous voulez, dans les ressources humaines et dans le cadre de la sécurité sociale en Belgique. Donc, si vous voulez démarrer une activité comme indépendant, vous avez besoin de nos services. Si vous voulez engager votre premier employé, vous avez besoin de nos services. Si vous voulez faire grandir votre entreprise, automatiser les services ressources humaines, vous avez besoin de nos services. Nous sommes une entreprise qui a 75 ans d'existence. Nous sommes le numéro 2 sur le marché. Nous faisons la paie pour à peu près 400 000 employés et nous avons 135 000 indépendants qui font appel à nos services.
D'accord, donc vous êtes présent sur tout le territoire belge, c'est ça?
Absolument, aussi bien au nord qu'au sud.
D'accord, et vous interagissez avec ces entrepreneurs, ces entreprises sur tout le territoire national?
Absolument.
75 ans, c'est un âge vénérable. J'imagine que c'est une tâche particulièrement challenging de transformer une culture aussi enracinée, finalement. C'est une force également.
Alors, vous touchez vraiment au cœur du problème. En fait, en 2013, nous nous sommes posé la question de savoir, au plus fort de la crise de l'emploi, il y avait à l'époque énormément de destruction d'emplois, en tout cas sur le marché belge, des restructurations d'entreprises, des fermetures. Et nous nous sommes posé la question de comment pouvions-nous, si vous voulez, avec notre historique de notre métier de base, comment pouvions-nous, de manière concrète et efficace, aider nos clients soit à démarrer leur activité, soit à la faire croître, partant du principe que la meilleure façon de protéger le système de sécurité sociale en Belgique, c'était de créer un maximum d'emplois.
Développer l'activité, bien sûr.
Oui, alors, si vous voulez, 75 ans d'existence, c'est à la fois un atout et un désavantage. Pourquoi un atout? Parce que nous avons une expertise d'ailleurs reconnue sur le marché, particulièrement dans tout ce qui est la juridiction sociale. Et si vous voulez, pendant de très nombreuses années, nos juristes ont été éduqués à motiver, à expliquer à nos clients le cadre strict de la législation belge. Alors que quand on définit notre nouvelle mission comme étant entreprendre avec les entrepreneurs, nous avons besoin de juristes, de collaborateurs qui non plus vont, si vous voulez, expliquer aux clients ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais plutôt aider les clients à explorer les limites du possible pour optimiser leur business et faire grandir leur business. Donc, si vous voulez, c'est un changement culturel en profondeur qui est plutôt de passer de... comment dire, en anglais, on appelle ça le risk avoidance, absolument faire en sorte que les risques soient minimisés, vers un risk management, et donc c'est plutôt contrôler le risque, mais aider les entrepreneurs justement à prendre au quotidien les risques nécessaires pour pouvoir créer et développer leur business. Et ça, c'est un changement de mentalité profond pour toutes les fonctions dans l'entreprise, aussi bien pour nos juristes dont je viens de parler, mais aussi pour les collaborateurs qui gèrent des dossiers d'indépendants, pour des collaborateurs qui font de la paye pour les entreprises, pour nos informaticiens qui créent des applicatifs pour automatiser les processus. C'est une révolution culturelle profonde dans l'entreprise.
Et à une échelle considérable, Partena Professionals, ce sont combien de collaborateurs aujourd'hui ?
Nous sommes 1600 collaborateurs répartis sur une trentaine d'agences sur tout le territoire belge.
D'accord, donc très, très, très large organisation. Alors vous avez entrepris une transformation que je qualifierais de collaborative. Elle a amené aussi une révision du business model. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, tout à fait. Nous avions dans notre stratégie, pour mettre en place notre mission, on a quatre piliers stratégiques. La croissance étant le corollaire de notre mission, la profitabilité pour pouvoir investir dans nos projets, notamment les gros projets de transformation digitale. Mais si vous voulez, la croissance et la rentabilité sont considérées comme le résultat de nos deux premiers piliers stratégiques. Le premier étant ce que nous appelons l'expérience de nos employés, c'est-à-dire créer pour nos employés un cadre de travail qui soit motivant, qui leur permette d'une part de faire grandir leurs compétences, d'autre part d'avoir un bon équilibre entre leur vie privée et professionnelle, et enfin d'assurer une mobilité transversale au sein de l'entreprise, c'est d'avoir la chance d'acquérir différentes expériences au sein de l'entreprise. Et nous sommes persuadés que si nous parvenons à être efficaces sur ces trois axes d'objectifs, sur ces trois objectifs en termes d'expérience employée, que nous aurons automatiquement un meilleur service vers nos clients. Et ça, c'est le deuxième pilier de notre stratégie, c'est vraiment le customer experience, comment faire en sorte que nos clients soient servis au mieux et qu'on atteigne un taux de satisfaction qui nous garantisse la pérennité de la relation commerciale avec nos clients.
D'accord, donc ce que vous dites en fait, c'est que ce que vous transformez au niveau de l'interne de l'entreprise va se répercuter sur la qualité du service au client.
Absolument. Mmh. Et pour pouvoir, si vous voulez, mettre en place des nouvelles manières de travailler pour nos clients et pour pouvoir mettre en place un nouveau business model, il est impératif de revoir l'organisation. On a fait beaucoup de tentatives de formation, des essais locaux d'adaptation de l'organisation, mais on se rend compte qu'aussi longtemps qu'on reste dans un business model traditionnel, dans un modèle d'entreprise qui est pyramidal, avec un certain nombre de structures hiérarchiques, il est extrêmement compliqué d'entrer dans une nouvelle dynamique. Et ces pyramides, chez nous, elles ont grandi de manière naturelle, si vous voulez. On est dans un métier qui est par définition extrêmement complexe et qui se complexifie chaque année, en plus, comme vous le savez.
Au fur et à mesure de la croissance de la société.
Bah, exactement. Ouais. Et puis la Belgique est un État compliqué, n'est-ce pas ? Donc la législation sociale est aussi compliquée que notre organisation. Et c'est, si vous voulez, pour gérer cette complexité, on crée des structures, on met en place des processus, des procédures. Et si on y prend garde, après quelques années, ces processus, ces structures deviennent des carcans qui sont en fait un peu des prisons pour nos collaborateurs. Mmh. Et donc, vous pouvez faire des formations, vous pouvez les inviter à essayer de se réinventer. Si vous ne changez pas fondamentalement le cadre de travail dans lequel ces personnes doivent exercer leur activité au quotidien, chaque fois que vous essayez de mettre en place quelque chose, ce quelque chose est broyé par l'organisation qui est devenue compliquée, si vous voulez. Pour gérer cette complexité, on est devenu extrêmement compliqué. Et donc, il y a besoin profond de remettre en cause ce système d'organisation.
Je comprends tout à fait ça, et c'est une caractéristique des organisations qui, à la fois, ont beaucoup d'historique et ont grandi. Et qui petit à petit ont tendance naturellement à se rigidifier, à se scléroser. Pour traiter ce point-là, vous avez particulièrement impliqué les équipes de terrain. Comment est-ce que vous y êtes pris ?
Eh bien là, on a procédé par essai-erreur. On a commencé à travailler là-dessus l'année après la redéfinition de notre mission. Donc c'était en 2013, entreprendre avec les entrepreneurs. Et dès 2014, on a lancé plusieurs tentatives. La première tentative, on a défini, si vous voulez, un certain nombre de comportements souhaitables. On en a fait un acronyme. Cet acronyme, on l'a symbolisé par un personnage fictif. Et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ce personnage fictif ? Il a été adopté par toute l'entreprise avec beaucoup de sympathie, mais finalement l'impact sur le comportement au quotidien était pratiquement nul. Donc ça, c'était le premier essai, c'était un essai ludique. On s'est dit qu'on devait aller vers quelque chose de plus lourd, de plus sérieux. On a fait du training massif sur le leadership. Ça a bien fonctionné, si vous voulez, dans le sens où ça a permis à certaines personnes d'évoluer en termes managériels, mais ça n'a pas eu du tout l'impact que nous souhaitions. On a essayé en 2016 et en 2017 des expériences locales, à un micro-niveau, si vous voulez. Donc on a demandé à quelques équipes de redéfinir leur organisation interne. Et on est sorti de cette expérience avec des résultats assez marginaux, où finalement les équipes discutaient plutôt des heures d'ouverture, du cadre de travail, ce genre de choses, mais n'osaient pas, si vous voulez, remettre en cause fondamentalement la façon dont elles étaient structurées. Et donc, on a décidé en fin 2017, début 2018, de travailler de manière complètement différente. On a lancé un appel à des volontaires dans l'entreprise. On a eu entre 10 et 15 collaborateurs qui se sont proposés, que nous avons sélectionnés pour la diversité de leur provenance, la diversité de leurs compétences, la diversité de leur caractère. Et nous leur avons donné tout le matériel stratégique dont nous disposions. Si vous voulez, tout ce qu'il y avait, toutes les études de marché, toutes les études de concurrence, les rapports de consultance, toutes nos réflexions stratégiques au niveau du comité de direction et du conseil d'administration. Mmh. Et nous leur avons donné une semaine ensemble, une mise au vert, et nous leur avons donné une mission très simple. C'est avec votre expérience de terrain, quelle organisation souhaiteriez-vous définir et mettre en place pour atteindre deux objectifs? C'est une organisation de travail qui soit efficace pour les collaborateurs et donc un environnement dans lequel les collaborateurs vont se sentir bien, d'une part, mmh. et d'autre part, un modèle de service qui nous permette d'être les meilleurs sur le marché en termes d'expérience client. Vous avez carte blanche, vous pouvez tout revoir, la segmentation des clients, l'organisation des services. Et ils sont revenus avec quelque chose qui était extrêmement structuré, qu'ils ont présenté au comité de direction en une paire d'heures. Ils ont, si vous voulez, expliqué leur démarche, toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées entre eux pour s'aligner, pour se challenger. Mais finalement, ils ont remis à plat toute notre segmentation de clientèle. Ils ont regroupé nos clients selon leurs besoins. Ils ont défini par rapport à ça des types d'organisations qui colleraient aux besoins du client. Et puis, ils nous ont suggéré de changer un certain nombre de choses dans l'organisation, notamment de déstructurer ces pyramides qui sont finalement des goulots d'étranglement sur les prises de décision. Et ils nous ont suggéré aussi d'évoluer vers un management plus dynamique, plus moderne. Et ils ont utilisé le mot de manager-coach plutôt que de manager hiérarchique. À l'époque, il n'était pas encore question de gouvernance collaborative.
D'accord.
C'est quelque chose qui s'est installé au cheminement des réflexions. Et si vous voulez, on a décidé, après leur présentation, on a décidé tout de suite que l'on allait faire un pilote sur les différents modèles qu'ils avaient proposés. Alors, ils en avaient proposé trois, on en a choisi deux, et on a décidé de préparer et de dérouler sur deux pilotes, ce que l'on a fait.
C'est très original de finalement définir un groupe représentatif du corps social de l'organisation et de lui confier une telle mission. C'est assez audacieux. Quel a été le lien de ce groupe avec le conseil d'administration et comment ce dernier a été impliqué dans ce projet?
Alors, au départ, nous n'avons pas impliqué le conseil d'administration, outre le fait, bien entendu, que nous les avons informés de la démarche, ce qui ne les surprenait absolument pas, et ils nous ont apporté leur soutien. Mais au départ, nous avons voulu préserver, si vous voulez, le biotope, qui était un biotope expérimental, sans leur mettre aucune contrainte, et leur donner la possibilité aussi de se planter, pour le dire de manière un peu originale. Il faut donner la possibilité, quand on fait des exercices de ce type, il faut donner la possibilité de rater. Et donc, on a appliqué le conseil d'administration au moment où il nous semblait et au moment où les équipes nous disaient qu'elles étaient mûres pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire un test avec un nombre de collaborateurs plus significatif. Et à ce moment-là, nous avons demandé à cette même équipe d'une quinzaine de personnes de venir présenter eux-mêmes au conseil d'administration leur proposition de modèle de service, leur proposition de modèle d'organisation et de défendre, si vous voulez, leur proposition eux-mêmes. Et nous les avons soutenus, évidemment, par rapport aux questions, etc., dans le conseil d'administration. Mais je dois dire, ça a été une dynamique extrêmement enrichissante. C'était assez émouvant de voir comment, si vous voulez, l'organe de contrôle de l'organisation était très vite en phase avec ce qui venait du terrain. C'était d'une
J'imagine.
telle logique, d'une telle solidité par finalement cet ancrage dans la pratique.
Michel Allais, vous êtes le CEO de Partena Professional. Vous avez entrepris une transformation collaborative majeure au sein de votre groupe qui est très large et qui s'étend sur tout le territoire belge au service des entreprises du pays. Quels résultats aujourd'hui pouvez-vous observer pour ces clients, mais aussi pour les équipes pilotes et celles qui coordonnent ce projet?
Les résultats sont extrêmement encourageants. Nous avons mesuré plusieurs choses. Les deux indicateurs clés principaux que nous utilisons, c'est le Net Promoter Score, qui est donc une mesure qui permet de faire la balance, si vous voulez, au niveau des clients entre vos promoteurs inconditionnels de la marque et vos détracteurs.
C'est
Et
un
sans
indice de
entrer dans...
satisfaction, en fait.
Voilà, c'est un indice de satisfaction, mais qui mesure aussi, si vous voulez, l'engagement des clients,
C'est ça.
puisque la question qu'on leur demande, c'est ce que vous recommanderiez Partena
C'est très
Professional.
fort, quoi, comme.
Alors, dans ce genre d'exercice, si vous voulez, le benchmark dans le marché, c'est quand on est dans des services industriels ou des services aux entreprises, un score autour de zéro est un score qui est déjà
Qui est
considéré comme
honorable.
satisfaisant, c'est-à-dire que vous avez au moins autant de promoteurs que des détracteurs. Si vous dépassez les 30, c'est considéré comme très bon.
Exceptionnel.
Et nous voyons dans les différentes équipes dans lesquelles nous avons mis cette démarche en place que nous obtenons un score entre 25 et 50. Nous avons fait la même démarche au niveau de nos collaborateurs. Et là, nous obtenons un score pour les collaborateurs qui sont inscrits dans cette démarche collaborative aujourd'hui de 80.
Wow.
La productivité qui n'était pas... Pardon ?
Impressionnant.
C'est impressionnant, absolument. La productivité qui n'était pas au départ dans les objectifs augmente de 10 à 20%. La créativité, ce sont les équipes qui amènent le plus d'idées d'amélioration de services. Et ce sont les équipes qui font aussi la meilleure croissance. Ce sont elles qui génèrent le plus d'opportunités commerciales et qui transforment le plus d'opportunités commerciales. Ce sont ces équipes qui ont la meilleure rétention de clients, avec une attrition de clients qui confine autour du pourcent, alors que le marché est plutôt autour de 5% sur base annuelle. Donc ce sont des résultats extrêmement
très impressionnants. Effectivement, ça se passe de commentaires, hein, comme on dit. Donc là, vous avez, du fait de cet engagement, de cette transformation collective, un différenciateur sur le marché qui est extrêmement fort, c'est ça ?
Absolument. Donc, pour les équipes qui aujourd'hui sont dans ce nouveau modèle, on a, je pense, un différenciateur très fort vis-à-vis de nos clients. C'est aussi, en termes d'entreprise, quelque chose d'extrêmement différenciateur dans le marché, dans le sens où nous sommes un business dans lequel il y a énormément de pression aujourd'hui. De par la complexité du métier, mais aussi de par les défis de la digitalisation, nous avons une très grande pression sur les marges dans nos métiers. Et donc, l'ensemble du marché est confronté à un défi de réorganisation et de restructuration. Et nous voyons aujourd'hui des collègues qui ont une approche et une démarche complètement différentes et qui sont obligés de se lancer dans des réorganisations d'entreprise d'une manière beaucoup plus douloureuse et beaucoup moins positive. Et si vous voulez, l'avantage que nous avons, c'est que je suis convaincu que lorsque nous aurons basculé l'ensemble de nos équipes dans ce nouveau modèle, nous serons capables d'affronter nos défis économiques de manière beaucoup plus positive que les entreprises qui restent dans un modèle traditionnel.
Et avec une capacité d'adaptation continue finalement, du fait même que cet engagement est celui de tous et n'attend pas une décision qui vienne spécialement du haut ou des validations intermédiaires systématiques.
Tout à fait. Les décisions ici, elles sont vraiment logées. Le pouvoir de décision est logé au niveau le plus bas possible, le plus près possible du client. Et c'est ça la force du modèle finalement, on se met d'accord sur les différents business models une fois pour toutes. Nous avons deux ou trois types d'organisations spécifiques en fonction des différents besoins de nos clients. On se met d'accord sur le business model, on se met d'accord sur des objectifs, et en fonction de ces objectifs, nous donnons toute latitude à nos collaborateurs pour prendre toutes les décisions qu'ils jugeront nécessaires pour servir les clients au mieux et atteindre leurs objectifs au mieux. Et ça, c'est une force extraordinaire, parce que, comme vous le soulignez, on peut se réinventer tous les jours.
Et alors, vous mentionnez un NPS et un taux d'attrition qui sont assez remarquables, qui manifestement vous positionnent en termes de marketing de façon très différenciée. J'imagine que ça a aussi un impact sur les candidats qui aimeraient vous rejoindre.
Tout à fait. Ça a un impact sur les candidats et aussi sur les collaborateurs existants.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais on a une très grande force d'attractivité. Pourquoi ? Parce que quand on explique ce modèle, les gens comprennent très vite qu'ils vont avoir un rôle essentiel à jouer et que leur avis va compter dans l'organisation de l'équipe. Et au niveau des collaborateurs existants, il y a ce même sentiment d'être important pour l'entreprise, puisque ce sont eux qui prennent toutes les décisions, ce sont eux qui assurent la qualité du service, ce sont eux qui définissent l'évolution de leur équipe.
Ils sont en
charge.
Donc,
on parle beaucoup de sens à l'heure actuelle. On dit souvent que les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, sont à la recherche de sens dans leur travail. Et là, je crois qu'on est dans un modèle qui rencontre complètement ce besoin de recherche de sens que on voit partout aujourd'hui.
Et alors, j'imagine que tout ça converge à améliorer quand même la rentabilité globale de vos opérations. Est-ce que ce sujet finalement est un tabou au sein de l'organisation?
Ce n'est pas un tabou, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un objectif stratégique, la rentabilité, non pas pour rémunérer nos actionnaires, puisque nous sommes une forme d'organisation sans but lucratif. Donc les profits, si vous voulez, sont redistribués dans l'organisation pour alimenter des projets. Mais le point essentiel, c'est que la rentabilité ou l'augmentation du profit, c'est un résultat. Je pense que ça ne peut pas être un objectif pour lancer un projet de gouvernance collaborative. Le projet, il est ailleurs, il est dans le sens, il est dans la qualité de vie des collaborateurs, il est dans la qualité du service pour les clients, et le profit, c'est un résultat. Mais ce n'est certainement pas tabou, parce que il ne faudrait pas penser, évidemment, qu'un projet de gouvernance collaborative, c'est un projet, j'utilise toujours l'expression anglaise « flower power »,« joy joy », absolument pas. C'est un projet dans lequel il y a beaucoup de bienveillance, mais c'est aussi un projet dans lequel il y a beaucoup d'exigences, et l'un ne va pas sans l'autre. Sinon, on serait dans une activité qui devient très, très vite chaotique. Et donc, ce n'est pas tabou, c'est un résultat, mais c'est quelque chose qu'il faut positionner de manière correcte dès le début.
Donc, vous avez entrepris, et on va peut-être conclure sur cet aspect-là, un changement de service modèle, de value proposition en même temps, et puis une transformation de modèle managérial ou de modèle de leadership assez fondamental. Quelles sont les prochaines étapes de ce chemin? Quelles sont vos échéances fortes? Et quels sont les challenges que vous voyez désormais?
Oui. Alors, nous avons commencé à implémenter ce modèle dans des équipes pilotes il y a un an à peu près. Nous avons aujourd'hui 150 collaborateurs qui sont dans le modèle. Nous aurons, fin de cette année, à peu près 600 collaborateurs dans le modèle de gouvernance collaborative.
D'accord.
Et l'objectif est d'avoir les 1600 collaborateurs embarqués dans le modèle fin de l'année prochaine, en 2021.
D'accord, donc relativement soutenu.
Absolument, oui. Absolument. Mmh. Et c'est indispensable. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, gérer deux modèles très différents, d'une part les pyramides, l'organisation hiérarchique traditionnelle, et d'autre part les cercles, ces cercles de gouvernance collaborative, c'est un exercice très compliqué. Et donc, plus il sera court, mieux ce sera pour l'entreprise. Nos défis, si vous voulez, c'est que on voit qu'il y a un enthousiasme général pour le projet, mais il y a d'abord au niveau du management un questionnement sur leur utilité dans l'entreprise. Et donc, les managers vont devenir soit des managers coach, soit des experts. Il faut qu'ils trouvent leur place dans ce nouveau modèle. Et pour certains, ça représente un défi personnel en termes de leadership. Et le deuxième défi, c'est que nous sommes dans des modèles très participatifs qui sont basés sur des équipes autonomes qui regroupent toutes les compétences nécessaires. Ces compétences, aujourd'hui, elles sont parfois centralisées dans des centres d'expertise, et donc on va avoir besoin d'une mobilité interne au niveau de l'entreprise. Donc ça va poser des questions pratiques. Et puis, le tout grand défi des ressources humaines est de mettre en place un système de gestion des talents qui soit en ligne avec la gouvernance collaborative. Et donc, on oublie tous ces modèles d'évaluation annuelle et toutes les normes de révision salariale que l'on connaît pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus transparent. Et ça, c'est un grand défi pour l'ensemble de l'entreprise, d'abord pour les RH, pour l'inventer, et puis pour l'entreprise, pour le mettre en place.
Alors, vous avez parlé des managers, et ce sera là vraiment ma dernière question, mais vous avez parlé des managers qui ont besoin de changer de posture et pour lesquels, en tout cas pour certains d'entre eux, la transformation va être compliquée, difficile, pas évidente. J'imagine aussi qu'il y a un certain nombre de collaborateurs auxquels on va demander plus d'autonomie, plus de responsabilité, qui ne sont pas complètement prêts à cela immédiatement. Comment vous imaginez gérer ces différentes difficultés personnelles ou de profils qui ne seront pas forcément totalement adaptés à, même si j'ai bien compris, un enthousiasme fort qui a été généré aujourd'hui dans l'organisation, il va falloir se focaliser spécifiquement sur ces difficultés-là.
Oui, tout à fait. Donc l'accompagnement personnel pour certaines personnes problématiques a déjà été mis en place. Pour certaines, nous avons constaté les derniers mois qu'il y aurait une impossibilité d'évolution et donc nous avons pris les devants, nous nous sommes séparés de ces personnes. Ceci dit, nous rentrons dans l'expérience avec des populations diverses et donc, comme vous le soulignez, il y aura des personnes dans les agences qui auront des difficultés personnelles. Alors moi, je fais confiance au modèle, je fais confiance à la bienveillance des collègues pour, dans les cercles, répartir les rôles de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Il y a parfois des personnes qui ont plus de difficultés à gérer autonomie vis-à-vis de clients, qui auront plus de mal à prendre des décisions opérationnelles vis-à-vis de clients, mais qui sont des collaborateurs extrêmement précieux en termes d'expertise. Et donc, je fais confiance au cercle pour trouver dans les rôles au niveau local la place adéquate pour chacun.
Michel Allais, merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre écoute. Et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.